vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio. C'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure. J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Donc il est 19h06 et de quoi va-t-on parler ce soir? On va commencer par des petites brèves.
On va commencer par un petit paquet de brèves et voilà. Puis après ça sera quoi? Ça sera les chasseurs, les chasseurs, chouchou du gouvernement.
Et ensuite on parlera on fera une petite brève des vaccins pour revenir sur ce sujet qui
c'est
nous
vrai,
intéresse
tout le monde
tant.
Il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas aussi.
Exactement.
Une tentative juridique contre les contrôles au faciès.
Et puis on finira avec, on reviendra sur les luttes paysannes en Inde. Et puis on terminera avec un petit agenda.
Et ben voilà. C'est toi la première brève.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Et donc les militants et militantes du planning familial n'ont cessé de le répéter, lancer un appel d'offres pour organiser la gestion du 3919, le numéro d'urgence concernant les violences faites aux femmes, ce n'était pas une bonne idée. C'est pourtant ce qu'avait lancé le gouvernement il y a quelques temps. Alors la Fédération Nationale de Solidarité des Femmes, FNSF, qui regroupe 73 associations et qui opère sur la ligne depuis l'année 1992, s'était aussi prononcée défavorable à cet appel d'offres. Elle voyait dans l'appel d'offres une approche donnant la priorité à la quantité des appels traités plutôt qu'à la qualité de l'écoute. Et plein d'autres problèmes qu'on détaillera un peu plus tard. La semaine dernière, justement, le FNSF avait annoncé saisir la justice administrative pour tenter d'obtenir l'annulation de la procédure de mise en concurrence et avait indiqué qu'elle ne comptait pas se porter candidate au marché dans ces conditions. Donc actuellement, la FNSF est liée par une convention d'objectifs et de moyens à l'État qui finance à 80% le budget de la ligne. Donc elle voulait rester sous ce partenariat-là, ou voire l'améliorer. Après lecture des documents mis en ligne pour l'obtention du marché public, différents plannings familiaux pointaient du coup que, au lieu de pérenniser ce partenariat que l'ensemble du secteur demandait, ce qui aurait apporté la garantie d'une continuité dans la qualité de l'écoute, dans l'accompagnement et dans la mise en sécurité des femmes victimes de violences sexistes, cette procédure-là, elle implique la mise en concurrence des associations, des fondations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, le budget leur paraissait aussi très insuffisant pour faire perdurer la ligne d'écoute, pour créer un chat en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et créer un observatoire national des violences sexuelles et sexistes, donc tout ce qu'on demandait dans l'appel d'offres, avec un tout petit budget pour faire ça, ce qui faisait donc craindre une médiocre qualité de service. Les critères mis en avant pour le choix d'un prestataire étaient donc essentiellement quantitatifs sur la durée et la quantité des appels et ne prenaient pas du tout en compte la qualité de l'écoute et les conseils fournis aux femmes et à leurs proches et par les professionnels. Donc suite à cette mobilisation, il y a eu aussi une pétition, Elisabeth Moreno qui est ministre de l'égalité femmes-hommes a annoncé lundi que le gouvernement mettait en suspens la procédure d'appel d'offres et que le gouvernement réexaminerait plus tard, on ne sait pas sous quelle forme, comment on redéfinirait le mode de gestion du 39-19. Canu Info.
Du mercredi.
Les 10 personnes les plus riches du monde, dont le français Bernard Arnault, ont vu leur fortune augmenter de 540 milliards de dollars, c'est-à-dire, on peut aussi dire 369 milliards d'euros depuis le début de la pandémie. On a dit les 10 personnes les plus riches du monde et c'est juste l'augmentation de leur fortune. En France, les 175 milliards d'euros supplémentaires qui ont gonflé le patrimoine des milliardaires entre mars et décembre 2020 pèsent deux fois le budget de l'hôpital public. Cette flambée tient en partie à la politique de rachat d'actifs menée par la Banque Centrale Européenne. C'est un truc financier qui fait flamber le cours de la bourse avec de l'argent public et au profit des plus riches et des plus ultra-riches. Ainsi, entre mi-mars 2020 et fin décembre, le cours du titre LVMH s'est apprécié de plus de 25%. Selon l'organisation Oxfam, les inégalités se creusent simultanément dans la quasi-totalité des pays du monde, une situation sans précédent depuis plus d'un siècle. C'était, comme je fais un peu souvent, la petite brève tirée de Nantes Révoltée, qu'on pourrait quasiment nommer notre partenaire à sens unique du Canu Info du mercredi.
Canu Info.
Alors hier, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi commençait à être débattue sur la maltraitance animale, dont on attend beaucoup, mais qui délimite un champ bien restreint, puisque l'élevage intensif n'est pas au programme de cette loi, de cette proposition de loi. Alors c'est dommage, puisque bien qu'il en existe quelques-unes des lois qui encadrent l'élevage, elles sont encore trop floues et surtout peu respectées. Donc inclure l'élevage intensif dans la discussion, ça aurait pu permettre d'enfoncer un peu le clou et de mettre un peu la pression pour que cessent des pratiques indignes et que, même quand elles sont filmées, ne cessent pas.
Et par ailleurs, en nombre d'animaux maltraités, l'élevage, c'est sans doute des milliers de fois les autres animaux concernés.
Voilà, évidemment. Alors justement, une nouvelle vidéo de L214, qui est donc l'association de défense des droits des animaux, a été publié le 25 janvier et s'intéresse à un élevage porcin à côté de Saint-Brieuc. Cette fois, pas de filière qualité en trompe-l'œil de mauvais traitements, comme chez Herta il y a quelques mois, mais un abandon pur et simple de dizaines de cochons morts dans leur enclos. On vous passera ici les détails que l'on peut retrouver sur la vidéo en question ou sur le communiqué de L214. Toujours est-il qu'ils sont morts depuis longtemps, que des rats leur tournent autour et qu'une brouette retrouvée plein d'eau peine à expliquer ce qu'il s'est passé. En revanche, les équipements de l'élevage, eux, et de la ferme ont été démontés. L'éleveur possède une autre porcherie toujours en fonctionnement sur la même commune que l'élevage abandonné. Il est adhérent à un groupement, le groupement Coperle, qui est leader français de la filière porcine et qui est censé accompagner les éleveurs, je cite, « en cohérence avec les engagements du groupe visant à élever les animaux dans les conditions sanitaires optimales et garantir leur bien-être ». Il y a de quoi rire jaune. Ni les services vétérinaires du département, ni la Coperle n'ont été capables d'identifier les défaillances de l'éleveur et encore moins de pallier ses carences. Pourtant, comme le souligne L214 dans son communiqué, pas facile d'ignorer que l'éleveur ne livre plus de cochons à l'abattoir en provenance de ses élevages. Comment le vétérinaire a-t-il pu passer à côté de la situation pendant 8 mois, tant qu'il s'est écoulé depuis la date estimée de la mort des cochons ? Alors là, Coperle répond dans un communiqué de presse et reconnaît que les images sont insoutenables, bon, c'est déjà ça, et d'ajouter en termes d'explication quelle est la fragilité, je cite, la fragilité morale et financière de l'éleveur dont la société est placée en redressement judiciaire. Leur vétérinaire conclut à une mort qui remonte à environ 8 mois, des suites d'un étouffement brutal dont l'éleveur n'a informé ni la coopérative ni son vétérinaire. Pas un mot sur leur absence de réaction pendant tout ce temps. La Coperle précise que l'élevage, qui était un site d'engraissement, a été fermé fin mai 2020 à la demande du vétérinaire, mais de nouveau sans que personne ne se soucie du sort des animaux restants. Le deuxième élevage de cet éleveur a fait l'objet d'un signalement d'animaux en détresse début septembre, dont la Coperle dit qu'il a été suivi d'actions correctives. La Coperle dit encore, je cite, « continuer à accompagner cet éleveur pour l'aider à quitter le métier ». Justement, accompagner, ça n'a pas l'air d'être leur fort.
Radio Canu. Canu Info. les mercredis.
Et non, j'essaie de trouver une phrase pour faire le lien, mais tant pis, vous le ferez vous-même. Depuis l'an 2000, 421 personnes ont été tuées en France par des chasseurs qui les ont pris pour différentes bestioles. 421 en 21 ans. En 20
ça fait
ans.
Du monde qui ressemble à un chevreuil. Hein.
C'est clair. Alors, c'est vrai que la plupart de ces morts et mortes étaient eux-mêmes des chasseurs, mais il y a aussi un certain nombre de victimes innocentes. Pour ça, on n'a pas de statistiques, mais la lecture de la presse donne un sacré paquet d'histoires. Et on se souvient peut-être du dernier dont on a parlé, ce gars qui a été tué il y a un mois et demi dans son jardin par un chasseur. Ce gars s'appelait Morgan, c'était un jeune homme, 25 ans, c'était dans son jardin. Hein. En plus, il était en train de, il allait démarrer sa tronçonneuse, il avait un casque anti-bruit orange fluo. Bon, ça fait quand même un peu de bruit, un petit peu. Le chasseur a dit qu'il avait pris Morgan pour un sanglier. On peut parler du vététiste anglais qui a été flingué en 2018 par un jeune chasseur de 22 ans qu'il avait pris lui aussi pour un sanglier. C'était en pleine, par un temps magnifique, le top de la visibilité. Le chasseur a été condamné à 4 ans de tôle, dont 3 avec sursis quand même. Il a juste flingué un type, hein, finalement. Mais quand même, dans la foulée, pas dans la foulée de la condamnation, dans la foulée du meurtre, le député Alain Perea, qui est un député La République En Marche, avait proposé une mesure pour empêcher ce genre d'accident, une mesure protectrice. Et cette mesure, c'était d'interdire le VTT pendant la période de chasse, 4 mois par an. C'est pas une blague. On peut aussi parler de cette dame de 69 ans qui, comme Morgane, avait commis l'imprudence de sortir dans son jardin. Là, pour le coup, ce qu'il faut interdire, c'est aux gens de sortir dans leur jardin. Hein. Alors, elle, en plus, la conne, elle se tenait à côté d'une haie. Alors, bien sûr, si on la voyait de l'autre côté de la haie, elle ressemblait trop à un cerf. Non, c'est pas une blague. Là non plus, le chasseur qui a tué cette dame a bel et bien vu un cerf.
Pas facile de voir à travers une haie.
Bah, c'est sûr, c'est pas facile. Alors au procès, le procureur, il a pas été tendre. Hein. Wow, il était vénère, le procureur. Il a demandé 18 mois de prison avec sursis quand même. Et c'était pas non plus le... Bon, voilà. Le retrait à vie de son permis de chasse. Pas tendre le bonhomme. Bon, le tribunal a quand même été plus raisonnable. Et le gars a été condamné à 12 mois de tôle avec sursis. Toujours avec sursis. Et juste 10 ans sans chasser, et puis 5 ans sans détenir une arme. Ça veut dire qu'il est obligé de prêter son flingue à un pote pendant 5 ans, après il peut le récupérer, le garder chez lui, mais d'attendre encore 5 ans pour retourner chasser. Entre-temps, on espère qu'il aura appris à distinguer un cerf d'une vieille dame. Mais quand même, il doit aussi payer des dommages et intérêts au mari pour le préjudice d'affection, ça s'appelle. Non, bah ouais, quand même, il lui a buté sa femme, l'autre il est triste, alors il faut qu'il lui file un peu des thunes. Citons encore ce randonneur de 20 ans, tué en 2015 dans l'Isère. Alors, la réaction des élus locaux ne s'est pas fait attendre. Les maires de plusieurs communes ont pris un arrêté interdisant momentanément les promenades, à pied ou en vélo, sur les forêts communales. Il faut que les gens comprennent que se promener en forêt pendant les périodes de chasse reste très dangereux. Leur en interdire l'accès reste la décision la plus raisonnable, avait déclaré un de ces maires, lui-même chasseur, au moment de, donc en 2015.
De l'espace public.
Oui, c'est ça. C'est savoir public pour qui. Mais c'est ça, c'est que ce député de La République En Marche, finalement, qui proposait d'interdire le VTT, bah, il ne faisait que reprendre ses idées de maire de l'Isère. Ou alors, en 2015, toujours, près d'Annecy, un jogger qui se fait flinguer à côté de sa femme, ils faisaient du jogging ensemble, lui, il se prend une balle, je l'ai pris pour un sanglier, dira le jeune chasseur. C'est vrai, hein, tout ça. Bon, je m'arrête là sur la liste, mais quelques clics sur Google vous fourniront un certain nombre d'autres histoires du même tonneau. Et alors là, suite à la mort de ce Morgan, ses copines... Morgan, c'est celui de la tronçonneuse, là. Ses copines, elles sont vénères et elles ont réussi à organiser quand même une manif de 300 personnes sous la pluie battante à Cahors. Alors Cahors, j'aime mieux vous dire qu'il doit y avoir à peu près autant d'habitants que dans la rue de Radio Canu, hein, qui est une toute petite rue. Quand même 300 personnes à la manif, c'est pas rien. Il se passe quand même quelque chose sur l'histoire de chasseurs. Et il se passe non seulement, enfin on le voit non seulement à ça, mais figurez-vous qu'elles ont aussi créé un machin Instagram là, un compte Instagram qui s'appelle Un jour un chasseur et sur lequel tout le monde est appelé à envoyer ses petits témoignages d'interactions avec des chasseurs, d'interactions diverses et variées. C'est ça, entre chasseurs et les autres habitants et habitantes des campagnes. Et alors là, sur le compte Instagram, vous pouvez aller y voir, hein, un jour un chasseur, C'est des intimidations, des menaces, des insultes. C'est des balles qui traversent les vitres des maisons, qui volent au-dessus du berceau du gamin. Et c'est aussi des vraies confrontations, c'est ça. Donc, avec, par exemple, le chasseur qui va buter. Enfin, en tout cas, vous vous engueulez avec des chasseurs, et puis quelques jours après, votre chat est retrouvé sur votre paillasson, non seulement avec une balle dans la tête, mais aussi éventré, et les boyaux un peu posés à côté. Ou alors, c'est aussi, et alors ça, c'est un paquet, et même moi, ça m'est arrivé, figurez-vous, des poules qui, comme la mienne, se font défoncer par des chiens de chasseurs. Quand le chien qui est en train de, enfin quand il y a pas, quand par ailleurs votre poule habite à côté de chien et qu'il y a jamais un problème, mais que vous la voyez en train de se faire bouffer par un chien qui a une balise sur le dos, il y a aucun doute, c'est un chasseur, c'est un chien de chasseur. C'est certainement le chien l'a prise pour un chevreuil. Alors, pour revenir sur Morgane, figurez-vous que quand même le président de la fédération de la chasse du Lot. Donc le département où Morgane a été flingué remet les choses en place hein, quand Mediapart lui quand Reporter lui demande de réagir à ce truc là bah lui dit c'est un drame, j'en conviens parce qu'il parle comme ça, mais il faut qu'on arrête un petit peu aussi. D'ailleurs c'est malheureux, mais ça sera ni le premier ni le dernier, le risque zéro n'existe pas. Il s'énerve hein, le gars. Alors en fait le risque zéro sur la chasse, ça serait assez facile de le faire exister, il suffirait d'interdire la chasse hein. La phrase le risque zéro n'existe pas, généralement ça veut dire faites-nous pas chier, on n'a rien à branler. Il faut arrêter de focaliser sur la chasse, on fait le maximum, croyez-nous. Bah, dis donc, en termes de maximum, on a bien dit 421 personnes tuées depuis l'an 2000. Alors pendant ce temps, Macron, lui, continue à croire que les chasseurs sont son atout maître, son atout secret, son truc génial, son arme ultime pour reconquérir les ploucs, les habitants et habitantes des territoires. Alors, il leur lèche le cul à chaque occasion. Par exemple, durant le deuxième confinement, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi, hein, vous, moi, tout ça, tout le monde, et campagne ou pas campagne, la pratique sportive était limitée à 1 heure et 1 kilomètre de la maison. Les chasseurs, à ce moment-là, ils ont fait mine de laisser paraître un léger mécontentement. C'est-à-dire qu'au départ, quand ce confinement a été dit comme ça, on n'avait pas pensé aux chasseurs dans le ministère. Les chasseurs, ils ont fait « Mais !» Et là, dans la seconde, ils ont été autorisés à aller flinguer les petits oiseaux et les ramasseurs de champignons sans aucune restriction. Il y a eu un dimanche où ils n'ont pas pu chasser. Ils ont un peu râlé. Le dimanche d'après, c'était « C'est bon, allez-y ». Donc, sur le site Reporter aujourd'hui, il y avait aussi une tribune qui attirait notre attention sur les pratiques de lâcher d'oiseaux pour la chasse à la cocotte. Qu'est-ce que c'est la chasse à la cocotte ? Ben, c'est quand vous avez des oiseaux d'élevage, vous en avez plein, et là, vous les lâchez juste à côté des chasseurs qui ont déjà leurs fusils armés et prêts à tirer. C'est la chasse à la cocotte. Et ces oiseaux, bien sûr, ont été élevés par des humains. Ils voient aucun danger au fait de s'approcher des humains. On peut leur coller un canon sur la tempe et appuyer sur la gâchette, hein, c'est pas un problème. Moi, alors pareil, hein, j'habite à la campagne, donc, et une fois, il y avait un faisan dans mon jardin. Je vous jure, j'y suis allé et je l'ai chopé à la main, quoi. Ce genre de chasse répertoriée. Alors, l'article nous explique que ce genre de chasse répertoriée comme chasse commerciale, dite aussi chasse professionnelle ou chasse à la journée, sont inscrites au registre du commerce. 450 établissements proposent ainsi des prestations de services cynégétiques sous forme d'actes de chasse réalisés en contrepartie d'une rémunération. C'est du pur business. Ils achètent 55% du petit gibier aux quelques 900 à 1000 éleveurs de gibier ou cynégéculteurs qui produisent chaque année environ 18 millions de faisans, 5 millions de perdrix et 1 million de canards colverts. Donc, on les achète, on les lâche, et là, avant, on a fait venir 50 bonhommes avec des flingues, et là, massacre. C'est la chasse. Alors, sauf qu'en ce moment, c'est un peu con, c'est la grippe aviaire. La H5N8, elle s'appelle cette année, et elle fait quand même un peu des gros dommages et chez les volailles et chez les oiseaux sauvages. Et comme un des oiseaux lâchés pour la chasse à la cocotte, pour être buté tout de suite, il y en a malgré tout quelques-uns qui finissent la journée vivants, et que du coup, ils traînent dehors. Alors, du coup, d'un côté, ils fréquentent les oiseaux sauvages, d'un autre côté, ils risquent de s'approcher des élevages sans avoir la trouille. Bah, ma foi, c'est potentiellement des gros vecteurs de H5N8. Mais les chasseurs, et aussi les éleveurs de gibier, les cynégiculteurs, là, les marchands de flingues, tout ça, c'est quand même tout un business. C'est visiblement un business plus puissant que celui des éleveurs de canards ou de poulets qui, eux, n'ont pas trop pour que la grippe se répande. Du coup, alors quelques restrictions symboliques. Hein, on n'a pas le droit de les lâcher à côté d'un plan d'eau. des sortes de machins comme ça. Mais bon, la chasse à la cocotte n'a pas été suspendue une seconde.
Alors, en attendant, il y a des centaines de milliers de volailles qui meurent dans les élevages, qui sont tuées pour éviter la...
Ah, par ailleurs, bien sûr.
Que se répande la grippe. Hein.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on continue à faire ça, mais les gens qui ont un élevage de canards, pour peu qu'il y ait un cas pas loin ou on bute tous les canards. Et ça, sans aucune sorte d'état d'âme. Bon, l'éleveur, il pleure un peu, mais après, il pleure pas longtemps parce qu'il touche la thune. Alors, terminons sur la chasse à l'aplan. Qu'est-ce que c'est la chasse à l'aplan ? Eh ben, c'est ce truc de... Alors, c'est pour le gibier d'eau. On chope un oiseau. Enfin, on a un oiseau qu'on a élevé et qu'on garde dans une cage et qui fait cuit et qui appelle ses congénères libres. Comme ça, il s'approche, mais à côté de la cage, bien sûr, il y a un gros moustachu avec un flingue qui bute l'oiseau qui s'approche. Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, a interdit l'utilisation des aplans à cause de la grippe. Cette mesure de prévention anticipe un potentiel contact avec des oiseaux sauvages contaminés et semble tout à fait justifiée vu que les aplans captifs sont ensuite ramenés chez les chasseurs et vu la contagiosité du H5N8. Face à cette interdiction considérée par les chasseurs comme une remise en question de la chasse au gibier d'eau, la Fédération nationale des chasseurs a contesté devant le Conseil d'État l'iniquité de ces mesures sanitaires. Selon Willy Schrein, son président, dont je ne me rappelle plus, mais c'est un nom que je connais, il dit des monstruosités à chaque fois qu'il ouvre la bouche, ce bonhomme. Ces mesures sanitaires pénalisent les chasseurs. Et donc, dans un communiqué de presse, la Fédération nationale de chasse précise que les chasseurs ont un rôle d'utilité publique de sentinelle de l'état sanitaire de la faune sauvage. Non, mais avec tout ce qu'on vient de raconter sur le lâcher d'oiseaux, blabla, les chasseurs qui régulent la faune, nanana. Réguler la faune, ça veut dire lâcher des tonnes d'animaux. N'importe quand, n'importe comment, et par exemple en période d'épizootie. Et il nous dit encore que interdire le transport d'apelants, donc ces oiseaux qui font cuicui, là, pour appeler leurs potes, revient à priver la nature de l'observation attentive des milieux naturels par les chasseurs de gibier d'eau. Il fallait oser.
disais, on est sur les Canu Info et il est 19h31. Et on va se faire pour changer une petite brève des vaccins. Ça faisait longtemps. Alors, ces histoires de vaccins, on l'aura compris, font ressortir de sérieuses questions quant au contrôle des moyens de production et des brevets industriels. On en parlait la semaine dernière, mais on va y revenir rapidement, puisque ça y est, le laboratoire Sanofi a annoncé qu'il allait produire des doses du vaccin Pfizer, qui n'est donc pas celui qu'il a inventé. Bon, ça se fait un rythme assez tranquille, puisque les premières doses devraient être fabriquées en août. À la question « Mais pourquoi ne s'y sont-ils pas mis avant ?» et « Qu'est-ce qui les a contraints de changer d'avis maintenant ?» cette formulation du journal Le Monde répond « Au cours des dernières semaines, le gouvernement français a enjoint Sanofi à plusieurs reprises d'étudier la possibilité de mettre à disposition ses chaînes de fabrication pour augmenter la production de vaccins déjà existants. » La formulation est floue, mais laisse penser que c'est une faveur que concède Sanofi et que dès que l'urgence sera passée ou que les profits seront moins intéressants, le laboratoire cessera tout naturellement la production. Pendant ce temps, chez Pfizer, on se perd dans des comptes d'apothicaires pour tenter de masquer que les livraisons promises sont insuffisantes. La semaine dernière, Pfizer annonçait qu'il ne pourrait pas livrer avant le mois de février les doses commandées par l'Europe en raison des travaux sur sa chaîne de production belge. Premier couac. Il y a quelques semaines, des soignants ont découvert qu'il est possible d'extraire une sixième dose du vaccin dans chacun des flacons distribués, normalement censé en contenir cinq. Alors effectivement, le laboratoire met plus de liquide que nécessaire dans chaque flacon pour pallier les pertes telles que les gouttes restantes sur la paroi du flacon ou dans le volume mort de la seringue. Alors ça pourrait être une bonne nouvelle de cette sixième dose à laquelle on ne croyait pas puisque ça permet d'augmenter le nombre de doses et donc le nombre de vaccinés sans toucher à la commande initiale et sans avoir besoin de produire plus. Ainsi, depuis le 12 janvier, l'Agence européenne des médicaments a annoncé l'autorisation de l'utilisation de cette sixième dose. Et en profitant de l'autorisation qui a été donnée par donc, l'Agence européenne des médicaments, le laboratoire Pfizer a rétorqué ce vendredi en annonçant livrer 17 000 doses en moins, sans toucher en contrat, appuyant sur le fait que les pays auraient commandé un nombre de doses précis et non pas un nombre de flacons. Donc, puisque vous avez découvert une sixième dose, eh ben, servez donc vous-en et puis arrêtez de nous embêter pour qu'on livre plus. Alors, les soignants sont inquiets. Cependant, parce qu'il dénonce la réaction de Pfizer, cette sixième dose, elle n'est pas toujours récupérable. Pour l'obtenir, il faut d'une part très bien maîtriser la manipulation et puis d'autre part posséder le matériel adéquat, c'est-à-dire une seringue avec un très faible volume mort et une aiguille sertie. Alors, je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces choses, mais ça n'a pas l'air toujours à la disposition des soignants. Alors, en tout cas, pour Pfizer, c'est réglé et ça permet d'autant mieux de masquer les problèmes de production.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios. Canu Info.
Six ONG ont annoncé ce matin qu'elles lancent une action de groupe, c'est-à-dire une plainte collective contre l'État français pour le contraindre à en finir avec les contrôles au faciès. Ces ONG, c'est rien moins que Amnesty International France, Human Rights Watch, l'Open Society Justice Initiative, le Réseau Égalité, Antidiscrimination Justice Interdisciplinaire, le Réagi, la Maison Communautaire pour un Développement Solidaire, MCDS, et une association qui s'appelle Pas à Pas et qui ont donc décidé de porter cette question des contrôles au faciès, des contrôles, quand on dit au faciès, c'est, en réalité ça veut dire en fonction de la couleur de votre peau, de porter cette question devant la justice. Alors cette fameuse procédure d'action de groupe, c'est un truc qui a été introduit dans la loi française en 2016. Au départ, c'était des histoires surtout de droits de la consommation. C'est-à-dire que quand beaucoup de consommateurs trouvaient qu'ils avaient été arnaqués par une même boîte, ils pouvaient se mettre ensemble pour porter une plainte collective. Ce qui s'est passé en 2016, c'est que ça a été permis dans d'autres cadres, et ça a été utilisé jusqu'à maintenant par des organisations syndicales. Entre autres pour dénoncer des discriminations au sein de leur entreprise. Et si les avocats qui portent ce dossier aujourd'hui continuent à être optimistes, ils trouvent, c'est quand même question de savoir comment est-ce que le juge va statuer sur la recevabilité de ce truc-là. Alors, cette initiative associative inédite entre aujourd'hui dans sa première phase, parce qu'on fait pas ça, on porte pas de plainte directement. En fait, les ONG, elles adressent pour l'instant une mise en demeure à l'État. Et en l'occurrence, elles mettent en demeure le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour qu'ils fassent cesser ce qu'ils appellent, ce que ces ONG appellent une discrimination systémique, c'est-à-dire inscrite dans le fondement et les pratiques de la police. Et pour faire cesser ces fameux contrôles aux faciès, elle parle de 6 exigences. Et tout en disant bien qu'il faut que les 6 soient mises en place parce que c'est le fait qu'elles marchent ensemble qui pourrait sans doute améliorer les choses. Bon, on connaît l'État français, hein, de toute façon. Enfin, l'État français et en particulier ce gouvernement et ses ministres. De toute façon, ils se trompent jamais. Ils ont toujours fait bien. Quoi que leur dise tout et tout le monde, ça ne changera rien. Donc, ils mettront certainement en place aucune de ces mesures. Mais enfin, pardon, je suis pas là pour ne pas leur laisser le bénéfice du doute. On verra bien. C'est quoi les mesures? Alors, d'une part, la modification du code de procédure pénale pour interdire explicitement la discrimination dans les contrôles d'identité, que ça soit bien clair, exclure les contrôles d'identité administratifs et circonscrire les pouvoirs de la police afin que les contrôles ne puissent être fondés que sur un soupçon objectif et individualisé. Pas juste « tiens, t'es arabe, alors certainement tu dois avoir commis un délit », mais vraiment un vrai truc, quoi. La deuxième mesure, ça serait de mettre en place un système qui permettrait de garder une trace des contrôles d'identité, de les évaluer et de fournir la preuve de ce contrôle aux personnes contrôlées. C'est toutes ces histoires dont on parle, en tout cas depuis 2012, de récépissé. Les flics, quand ils vous contrôleraient, ils devraient vous donner un récépissé de contrôle. Comme ça, à la fin de la journée, si vous avez été contrôlé 3 fois, vous pourrez dire « il n'y a pas un problème là ». Et puis, troisième mesure, il faudrait, les ONG demandent de créer un mécanisme de plainte efficace et indépendant contre la police. Autant dire, rien à voir avec ce qui existe pour l'instant, l'IGPN, qui n'est ni efficace ni indépendant. Les ONG demanderaient aussi que la France, ratifie alors ce qu'on appelle le protocole 12 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la non-discrimination. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est que du coup, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a des sous-machins, et puis on peut cocher les cases, là. Et puis en fait, ils s'en créent aussi. Alors, la France, pour l'instant, est contre la discrimination dans un certain nombre de cadres, mais ce protocole 12, il dit que la discrimination en soi, jamais, nulle part, et que la discrimination, il faut la proscrire. Bon, bah là, figurez-vous que la plupart des pays de l'Union européenne ont signé, hein, vite fait, bien fait. Alors la France, que dalle, rien.
Alors, France proscrit pas la discrimination. Quoi.
C'est ça. C'est qu'elle proscrit telle discrimination, telle autre discrimination. Mais la discrimination en soi, on ne sait pas trop où ça pourrait nous amener. Alors bon, on va pas ratifier dans un premier temps, ni dans un deuxième, ni bon, on verra plus tard. Et puis, dernière mesure demandée par les ONG, c'est modifier les objectifs de la police, les instructions et la formation qui lui sont données afin d'améliorer ses relations avec la population. Bien sûr, dans le cadre d'une police, c'est toujours un peu problématique tout ça. Mais en tout cas, voilà, là, c'est l'idée de cette fameuse police qu'on nous vendrait comme républicaine et tout ça, pour qu'elle puisse exister. Il faudrait toutes ces mesures. Alors, les ministres concernés ont, s'ils le souhaitent, 4 mois pour répondre à cette mise en demeure, prendre des mesures concrètes et entamer des discussions avec les ONG qui lancent le machin. Au mois de mai, c'est-à-dire au bout des 4 mois, les ONG auront la possibilité de saisir la justice pour qu'elle commande au gouvernement d'agir sur le sujet, si elles estiment que le gouvernement n'a pas encore mis en place des mesures efficaces. Alors voilà, ça c'est pour l'aspect juridique. Bon, les 6 associations, elles ont un argumentaire autour. Elles parlent de ces contrôles aux faciès comme d'une pratique ancienne, persistante, généralisée, à la fois humiliante et illégale au regard du droit français et des engagements de la France sur le plan international. Elles disent que l'État n'a pris que des mesures cosmétiques pour y mettre un terme, c'est-à-dire des petits machins à droite à gauche mais qui servent à rien. Et que l'État n'a jamais engagé des réformes structurelles qui seraient absolument nécessaires. Alors on se souvient peut-être ou peut-être pas, parce que finalement, c'est une des très nombreuses promesses non tenues par François Hollande. Mais en tout cas, voilà, en 2012, dans son programme présidentiel, François Hollande parlait de lutter contre le délit de faciès dans les contrôles d'identité par une procédure respectueuse des citoyens. C'était bien, c'était bien. Mais quand il est arrivé au pouvoir, alors d'abord, avec, c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre à l'époque, il parlait, du coup c'est eux qui avaient inventé cette idée de récépissé de contrôle d'identité ou d'attestation, bon, qui en soi allait pas empêcher les contrôles d'identité, mais en tout cas allait permettre de prouver qu'il y avait des gens qui se faisaient contrôler tout le temps, puis d'autres jamais. Et finalement, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient rien fait. C'était Manuel Valls qui avait enterré le truc en disant « Il ne faut pas compliquer de manière déraisonnable le travail des policiers et des gendarmes de terrain. Ça serait beaucoup trop bureaucratique, lourd à gérer, porteur de difficultés juridiques nouvelles en termes de traçabilité des déplacements. » Ah, c'est ça. Alors là, il faut bien comprendre cette phrase. Il disait « Non, mais en fait, si on donne des récépissés aux gens, ça veut dire que ça va laisser des traces et du coup, on pourra savoir où les gens ont été contrôlés par des flics, donc on pourrait tracer leurs déplacements. Donc ça serait une forte atteinte à leur liberté. La CNIL certainement ne serait pas d'accord, tout ça. Enfin, vous voyez le genre d'argument de merde.
Alors que ce serait peut-être une seule bonne raison pour laquelle se faire tracer.
Et puis surtout, on ne serait pas obligé de tracer. En fait, il suffirait de donner un bout de papier aux gens avec un tampon et personne n'est obligé de l'enregistrer dans un fichier. Mais ça, quand même, les flics qui te donnent un bout de papier, ils l'enregistrent dans un fichier. Ils t'enregistrent surtout toi dans un fichier. Bon, ça c'était en 2012. Alors en 2017, Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, lui il disait que quand il serait président, il allait grave lutter contre les contrôles aux faciès. Il promettait de changer la culture, le mode de management, parce que c'est quand même comme ça qu'il parle, et le recrutement dans la police. Et puis rien. Le 4 décembre dernier, dans sa fameuse interview accordée à Brut, quelques jours après le passage à tabac de Michel Zecler, alors Emmanuel Macron, attention, cette fois-ci, hein, pour la première fois depuis qu'il est président, eh ben, il a dit que oui, c'était vrai, il y avait des contrôles au faciès. Il a dit précisément, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Emmanuel Macron, il dit ça, quoi. Alors que ça faisait des années que ses ministres disaient, c'est pas vrai, les uns après les autres. Mais là, du coup, il dit ça. On est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus, il insiste. Et encore plus quand on est un garçon, parce qu'on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème, et cette identification en soi, c'est insoutenable. Dis donc, Macron, il a dit ça. Bon, bah résultat, ça s'est pas fait attendre. Les syndicats de flics ont fait les gros yeux. Ils ont froncé les sourcils comme ça. C'était inacceptable que le président, une fois dans sa vie, dise un truc vrai. Alors, quand les syndicats de flics font les gros yeux, on sait ce que ça donne. Et du coup, le Beauvau de la sécurité a été promis dans la foulée. Et le Beauvau de sécurité, c'est bien un truc qui est pensé comme une très, très, très large possibilité pour les flics de demander tout et n'importe quoi. Bon, les syndicats de flics, Alliance en tête, ils se sont quand même fait un peu prier pour prendre part à ce Beauvau de la sécurité. Non, mais oui, mais le président, il nous a insultés. Alors maintenant, il veut qu'on vienne tout demander puis il nous accordera tout. Mais est-ce que, quand même, d'abord, il nous insulte, alors c'est mal. Alors, ils ont mis des conditions. Et Darmanin, ma foi, leur a fait quelques promesses, comme cette fameuse garantie de grosse peine pour les gens qui attaquent les flics. Alors on se demande comment est-ce que ça peut marcher juridiquement, parce que ça veut dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui fixe des peines pour des délits qui sont, pas pour tel délit particulier, ce qui serait déjà un grave problème, mais pour tous les délits, des peines minimales. Mais en tout cas, ces gens sont certainement pas en manque d'imagination quand il s'agit de mal faire. Bref, à la fin de tout ça, c'est encore les flics qui gagnent. Le président a beau reconnaître que toute une partie de la population est contrôlée sur la base de préjugés, il ne se passe rien, estime le président d'une de ces associations qui ont porté plainte, celle qui s'appelle MCDS. Et lui, il dit qu'il a de l'espoir parce que passant par le droit, ça pourrait créer une prise de conscience de ces discriminations, mais il rappelle qu'on ne demande qu'une seule chose, l'égalité de traitement. Un truc incroyable dans ce gouvernement qui dit république, république, république tout le temps. Enfin, généralement, c'est pour niquer les musulmans quand ils disent république. Mais la mise en demeure adressée au gouvernement s'accompagne de nombreux témoignages de victimes de contrôle aux faciès dans toute la France, ainsi que de policiers qui racontent leurs expériences de flics et comment ça se passe avec leurs collègues, quoi. Et donc les ONG, alors elles estiment que l'ensemble des preuves accumulées démontrent un schéma de discrimination qui ne peut être réduit à des incidents isolés ou sporadiques. C'est pas le problème que tel flic soit raciste ou tel flic soit raciste, c'est vraiment le problème qu'il y a un problème avec l'institution. Et blablabla, attendez que je me retrouve. Voilà, et du coup, ce qu'elles mettent dans leur dossier de plainte, c'est quand même des énormes travaux, rapports publics, enquêtes universitaires de sociologie, blablabla, sur les contrôles d'identité. Alors, on sait qu'en France, il y a cette histoire d'interdiction des statistiques ethniques. Ça veut dire qu'on n'a pas trop le droit de compter les Noirs ici, les Arabes là, les Blancs, blablabla. Mais malgré tout, il y a un certain nombre, en fait, il y a énormément d'études universitaires où en fait, on a juste envoyé des étudiants, par exemple, dans une gare, par exemple, à la gare du Nord à Paris. Regardez l'équipe de flics, regardez qui y contrôle et notez qui pouvait être perçu comme Noir ou Arabe. Et bon, effectivement, à chaque fois, alors d'une enquête à l'autre, hein, ils sont contrôlés 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus, mais enfin, ils sont toujours plus contrôlés quand ils sont pas blancs. Voilà, attendez, c'est parce que la fin de mon article, c'était juste au moment où on devait arriver à l'antenne, alors je sais plus comment je dois finir. Oui, voilà. Et ben, c'est que du coup, alors, à part une fois, une phrase du président de la République, tout le reste du temps, les ministres et le président et ses ministres répètent contre toutes les études, contre toutes les évidences, que les contrôles discriminatoires n'existent pas. Mais cette fois, ça va plus être à eux d'en juger, ça va être à des juges. Alors bien sûr, rappelons-nous quand même et rappelons ici que cette action ne remplacera certainement pas les mobilisations, le travail associatif, les manifs contre les flics, contre le racisme des flics, contre la violence des flics, toutes ces manifs qu'on pourra faire de notre côté de la société, mais avec un peu de chance, cette plainte, ce travail auprès des juges, ça peut peut-être fonctionner aussi ensemble avec ce que nous on peut faire de notre côté pour plus d'efficacité.
Canu Info du mercredi.
Et on revient pour terminer sur la mobilisation des paysans et des paysannes indiennes. Donc hier, à l'occasion de la fête nationale, ils avaient été autorisés pour la première fois à entrer dans New Delhi, mais la police avait exigé un rassemblement limité et calme. Il n'y en a rien été, puisque dès 8h, les agriculteurs ont forcé les barrages pour entrer par centaines de milliers dans la capitale, en se servant de leurs tracteurs comme béliers. Donc il y a des scènes surréalistes de tracteurs sur les routes que les flics essayent d'éviter ou de charger selon les cas. Les affrontements ont ensuite dégénéré puisque la police a sorti bâtons et gaz lacrymogène. Il y a eu des dizaines de blessés et au moins un manifestant a été tué. Alors, malgré les appels au calme des unions agricoles, le Fort Rouge, qui est un monument symbolique au cœur de la capitale, a été pris d'assaut et l'état de siège a été décrété. Internet a été coupé dans plusieurs quartiers. Dans le sud aussi, alors la mobilisation elle s'est pas contentée de New Delhi puisque dans le sud à Bangalore au moins 25 000 paysans et activistes ont défilé. Voilà, après le communiqué officiel des syndicats agricoles a quand même remercié les paysans et paysannes pour leur mobilisation exceptionnelle en se désolidarisant prudemment des actes de violence. Les autres mobilisations aussi à la frontière de Ghazipur entre Delhi et Uttar Pradesh, la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques pour repousser à peu près 2000 manifestants. Et puis des gaz lacrymogènes ont aussi été utilisés à la frontière de Singhu entre Delhi et Haryana mardi matin. La police a aussi autorisé un rassemblement avec un plafond à 5000 tracteurs, donc ça c'était le rassemblement de New Delhi, mais pourtant plus de 200 000 tracteurs ont été mobilisés, donc autant dire qu'ils ont explosé la jauge avec de nombreux jeunes venus des états voisins et puis pas mal d'autres paysans qui ont rejoint le mouvement au dernier moment. Alors le porte-parole de la police de Delhi qui est Aish Singha a déclaré que les policiers avaient, je cite, fait preuve de beaucoup de retenue jusqu'à la fin, mais les agitateurs ont défié les conditions proposées et ont commencé leur marche avant l'heure prévue, ont choisi la voie de la violence et du sabotage. Alors ce chef de la police, le porte-parole de la police a ajouté que compte tenu de cela, il était nécessaire que la police de Delhi, je cite, maintienne la loi et l'ordre, en ajoutant que les affrontements avaient endommagé des biens et blessé un certain nombre de policiers. Voilà, on ne fait pas trop état du mort, du côté des manifestants par contre. Alors, on peut peut-être revenir rapidement sur ce que c'était, on en a beaucoup parlé ici, mais revenir rapidement sur ce que c'était que les, Les raisons de cette mobilisation, donc l'agriculture, c'est la principale source de revenus pour à peu près 58% des Indiens et des Indiennes. Donc ça fait un peu plus de la moitié des 1,3 milliard d'habitants de l'Inde. Et ils se battent depuis des années pour obtenir une augmentation des prix minimum garantis. Voilà, qui ont été mis en péril par la proposition de 3 lois qui proposaient de vendre les denrées agricoles à des entreprises privées et non plus dans un marché régulé par l'État. Alors c'est les agriculteurs, c'est la partie qui constitue le plus gros bloc d'électeurs du pays, qui fait donc de l'agriculture toujours une question politique centrale que les dirigeants successifs prennent avec des pincettes. Et là donc les 3 lois avaient été suspendues par rapport à ces mobilisations exceptionnelles. Le gouvernement avait tenu, du coup, après la suspension, 11 séries de pourparlers avec les dirigeants de plus de 30 syndicats d'agriculteurs opposés aux lois, mais c'est des pourparlers qui ont abouti à rien du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cette journée mémorable, les paysans et paysannes indiennes ne sont pas prêts de baisser les bras.
Canu Info.
Et on va terminer avec un petit agenda de la fin de semaine, de mobilisation de la fin de semaine à Lyon. Donc rendez-vous vendredi à midi à La Part-Dieu pour soutenir la grève des livreurs et livreuses de Uber Eats et Deliveroo. Donc le mot d'ordre, c'est meilleures conditions de travail et revalorisation du statut. Ce sera donc à midi à La Part-Dieu. Et puis il y a une grève, voilà. Donc pour les livreurs et livreuses se mettent en grève. Ensuite samedi, il y a d'abord le matin une manifestation contre la construction du nouveau CRA de Lyon et pour la fermeture des centres de rétention. Donc il y a un changement d'heure, ce sera à 10h place Bellecour. Donc pour il y a ce nouveau centre de rétention administratif dont la construction est envisagée pas loin du premier centre et qui a commencé. Et puis plus globalement pour la fermeture de tous les centres de rétention. Donc à 10h place Bellecour et dans la foulée à 13h la 5e marche des libertés, donc contre la loi sécurité globale. Donc rassemblement à 13h place Maréchal Lyautey, mais départ à 14h. Voilà pour les mobilisations de la fin de semaine. Et il est 19h54, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien.
Ouais, si tout va bien. Autrement, peut-être on se retrouve quand même, mais de chez nous.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.